Chers auditeurs de Radio TAF, bonjour. C'est une émission spéciale à laquelle je vous convie aujourd'hui. Comme j'ai pu vous le dire au cours d'émissions précédentes, la musique andalouse, que ce soit la musique ladino ou d'Afrique du Nord, est bien vivante. De jeunes musiciens ont repris le flambeau et la perpétuent après avoir reçu l'initiation nécessaire chez les maîtres, mais ils vont parfois bien au-delà en la renouvelant avec originalité. Ils l'interprètent lors de concerts où un public de plus en plus nombreux afflue. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire découvrir un jeune percussionniste spécialiste du répertoire andalou nord-africain, mais qui aborde avec un égal bonheur la musique cubaine. Il collabore aussi bien avec des ensembles de jazz qu'avec des chanteurs de musique populaire d'Algérie. J'ai nommé Hilal Amsalem. Hilal Amsalem, bonjour.
Bonjour Sabine.
Après avoir grandi à Paris, vous partez pour Jérusalem où vous vivez depuis 1996. Vous étudiez l'histoire juive à l'université de Jérusalem, puis à l'âge de 24 ans, vous décidez d'interrompre vos études car vous avez été traversé par une certitude, celle de devenir musicien. Et vous êtes, en effet, devenu musicien percussionniste professionnel. Rapidement, vous intégrez un groupe dirigé par Nino Bitton, dont nous reparlerons tout à l'heure. Et à partir de là, vous développez une activité musicale impressionnante. Vous co-créez l'ensemble Dialna, l'orchestre du Maghreb de Jérusalem, l'ensemble Mizrahi Salsa Band, et nous aurons l'occasion de vous écouter avec ces formations plus tard dans l'émission. Dans la foulée, vous animez également des ateliers d'éveil musical pour enfants autistes à Jérusalem, et vous développez une activité d'enseignant à l'école de rythme Peimot, à Jérusalem également. Alors, tout semble être allé très vite. Hilal Amsalem, dites-nous comment tout cela s'est passé.
Alors en fait, ça s'est passé un soir d'été. Toute cette histoire commence comme ça. Je me promenais avec mon chien et un ami. Et comme ça, dans cette promenade, on a commencé à entendre de la musique qui sortait d'une fenêtre. On s'est approché, on s'est dit, est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on tape? On tape, oui, on tape pas. On a tapé. Et en fait, là, on est rentré dans une sorte de khafla. Je ne savais pas ce que c'était une khafla à l'époque.
Qu'est-ce que ça veut dire khafla, effectivement?
Une khafla, c'est un bœuf comme ça, un bœuf un peu improvisé de musique arabe qui peut durer jusqu'à très tard dans la nuit. Donc, on rentre dans un appartement. Et là, je tombe nez à nez avec, je ne sais pas encore, avec la personne qui deviendra très vite mon maître, avec Nino Bitton. Et donc là, il nous a fait écouter ses musiques. J'ai commencé... Il nous a charmé en fait, il nous a charmé avec toute son histoire, tout ce qu'il jouait, tout ce qu'il nous faisait entendre. Et à partir de ce moment-là, je crois que j'ai compris que je voulais apprendre avec ce monsieur-là.
Et qu'est-ce qui vous a tant attiré dans les percussions?
Alors les percussions, ça a commencé un petit peu avant. Parce qu'il y avait en Israël une mode de percussions africaines, il y avait beaucoup de djembé, je me rappelle, il y a 20 ans. Donc les gens revenaient de leur voyage en Afrique avec des djembé. Et j'ai été attiré par ça, sans savoir ce que c'était, l'histoire du djembé, comment est-ce qu'on joue. Mais juste le fait de voir des gens jouer ensemble du tam-tam, ça me fascinait.
Mais est-ce que donc ce maître, dont vous ne savez pas encore qui va devenir votre maître, Nino Bitton, dont nous reparlerons tout à l'heure, est-ce qu'il avait besoin de djembé, lui, dans sa formation?
Alors en fait, Nino, c'est un peu un... Comment on dirait ça? Il tente des expériences musicales, c'est-à-dire qu'il introduit dans ses orchestres, qui sont des orchestres de musique algérienne, il peut introduire plein d'instruments qui ne sont pas forcément dans la tradition. Donc moi, il m'a fait rentrer avec un djembé, il a fait rentrer d'autres musiciens avec des saxophones, de la trompette. Bon, et là, je vous parle d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, on entend ces instruments. Mais il y a 20 ans, c'était complètement avant-garde.
D'accord, donc il était très ouvert aux instruments modernes et occidentaux. Ouais. Alors le nom de Nino Bitton, vous l'évoquez beaucoup. On comprend que ça va être quelqu'un de très important dans votre vie musicale. Qui est Nino Bitton?
Alors Nino Bitton, si je dois résumer ça, c'est un musicien qui a commencé sa carrière à 6 ans. À 6 ans, il jouait de la darbouka. De ce que je sais, de son histoire ou de ceux qui ont écrit sur eux, il jouait de la darbouka, il accompagnait des orchestres de personnes bien plus âgées que lui.
Où ça?
À Jérusalem. Et en fait, ensuite, il a été initié par un musicien de Jérusalem qui s'appelait Bram Sweri. Et c'est comme ça qu'il a été initié au oud. Plus tard, il apprendra à jouer du violon. Il est un peu autodidacte comme ça. Et le banjo. Donc voilà, il a fait une très belle carrière en Israël. Et dans les années 80, il a eu la chance d'enregistrer avec des membres du Philharmonique d'Algérie, dont Mustapha Skandrani, Alilo, le percussionniste, ou Abdelrani Belkaïd, le violoniste. Et aujourd'hui, c'est en Israël, c'est incontestablement le maître de la musique andalouse.
La référence.
La référence. Exactement.
Alors, comment s'est passé votre apprentissage chez Nino Bitton ?
Alors, chez Nino, je me rappelle maintenant. Bon. Chez Nino, ça se passait, j'ai eu la chance de pouvoir d'avoir des tête-à-tête avec lui. C'est-à-dire que j'ai tout appris oralement. Lui-même, il n'écrit pas la musique. Moi non plus, je n'écrivais pas la musique. La seule façon qu'on avait de communiquer, c'était il me montrait comment est-ce qu'il fallait, quel rythme il fallait jouer. Je devais le faire ça après lui. Donc lui me montrait ça au djembé, même s'il ne jouait pas de djembé. Et il me demandait de jouer après lui. Donc ça a duré pendant des années. Au début, il me demandait de jouer des choses très très simples. Et au fur et à mesure du temps, il m'a fait une petite place dans son groupe.
Mais est-ce que vous aviez, je dirais un petit peu comme on peut le voir dans les conservatoires ou même avec des professeurs particuliers dans les instruments comme le violon, le piano, un créneau dans la semaine qui était dédié à un cours avec lui, ou alors est-ce que vous passiez des journées avec lui ? Est-ce qu'il vous a initié de manière presque paternelle ?
Alors, tout à fait. C'est pas des journées que je passais avec lui, c'était des soirées. Je dormais chez lui. À une époque, on était inséparables. C'est-à-dire la façon dont il enseigne, c'est assez intensif, donc il faut... C'est quelqu'un même avec énormément d'énergie. Donc pour le suivre, il faut se mettre à son rythme. Si on peut se mettre à son rythme, eh ben lui, il est prêt à enseigner. Donc ça a duré des heures, des journées, des semaines. Et voilà, c'est...
Donc c'était un rapport maître-élève assez particulier.
Totalement.
À part le djembé, vous pratiquez d'autres percussions ?
Ouais. Alors je fais de la percussion cubaine parce qu'ensuite j'ai voyagé à Cuba. Donc en percussion, je fais des congas, des bongos, de la darbuka, du rick, du tambourin. Voilà, ça c'est pour les instruments majeurs. Après, il y a plusieurs instruments qui sont mineurs, comme les shakers, les cachichis.
D'accord, vous avez parlé des congas et des bongos. Ça, ce sont plutôt des percussions cubaines. Mais la darbuka, le rick et le tar, ce sont des instruments d'Afrique du Nord ?
De musique, pas seulement d'Afrique du Nord. Bassin méditerranéen, musique arabe. On retrouve ça... D'Irak au Maghreb, quoi.
Alors, Hilal Amsalem, vous explorez différents styles musicaux et particulièrement la musique andalouse. Vous avez joué avec Nino Bitton à de nombreuses reprises et en particulier, vous aviez l'habitude de jouer tous les vendredis après-midi à Jérusalem, au café Avram, jusqu'il y a encore quelques mois. Et un public enthousiaste se pressait pour venir vous écouter, vous, Nino Bitton, tous ses élèves qui jouaient avec lui. Et on entendait donc cette formation progresser de semaine en semaine. Quel souvenir, puisque je crois que vous en faisiez partie très régulièrement tous les vendredis, quel souvenir gardez-vous de cette période ?
C'était une super période pour moi. C'est un peu ce que j'appelle la méthode Nino. Ça veut dire que, en fait, pendant toute la semaine, on s'entraînait avec lui, ou en groupe, ou particulièrement. Et ensuite, on avait un concert toutes les semaines, et c'était l'occasion pour nous de vérifier sur scène ce qu'on avait appris pendant la semaine.
Donc c'était comme un entraînement au concert à venir, à votre carrière de concertiste en quelque sorte.
C'était une sorte d'entraînement comme ça. Moi, je le vivais plus comme un examen. C'est-à-dire, il y avait Nino on était pris un peu entre le public et Nino. Le public plutôt sympa. Et Nino comme ça en train de surveiller chacun de ses élèves. Donc il fallait vraiment qu'on assure.
Bon, c'était une bonne formation. Alors je voudrais que nous écoutions une pièce qui s'intitule « Touché à Grib » tirée du CD dont le titre est « Nino Bitton ». Les habitués de l'émission Musiques andalouses auront certainement reconnu le générique de cette émission. Dans ce morceau, Hilal, qu'entendons-nous dans cette introduction et qu'est-ce qu'une touchia ?
Alors, dans cette introduction, on entend Nino et Omri jouer une ouverture à la touchia.
Nino qui joue du oud et Omri Mor qui joue du piano, dont on reparlera tout à l'heure.
Exactement. La touchia, si je dois la définir, c'est une pièce musicale qui sert d'ouverture et qui se joue à l'unisson. Elle est jouée sur un mode donné, c'est-à-dire un makam donné.
Le makam, c'est la gamme orientale.
Exactement. Et elle porte le nom en général de ce makam. Là, on va écouter la touchia de Grib, c'est-à-dire la touchia, c'est la pièce, et Grib, c'est le nom du makam.
Et donc, vous avez dit que la touchia, c'est le début de quoi ?
C'est le début d'une pièce, d'un ensemble beaucoup plus grand qui s'appelle la nouba, qui est composée de plusieurs mouvements, dont fait partie la Touchia.
Et donc, cette Nouba, on pourrait la comparer à une suite, à la suite baroque européenne, à ce qu'on appelle la suite, c'est-à-dire une suite de morceaux relativement indépendants et contrastant les uns par rapport aux autres. C'est à peu près ça.
Exactement.
Et donc, la Touchia, elle a l'air composée de plusieurs parties. On dirait qu'il y a une première partie qui est un dialogue entre le oud et le piano qui fait penser plutôt à une improvisation où le rythme est assez fluctuant. Puis après, il y a une partie un petit peu différente, un peu contrastante.
Exactement. C'est-à-dire la première partie de la Touchia, ce sont par exemple le piano ou le oud qui définissent par une improvisation le makam sur lequel va jouer cette Touchia.
Et ensuite, rentrent les percussions.
Ensuite, rentrent les percussions. Voilà, avec plusieurs, encore une fois, plusieurs mouvements dans le morceau.
Plusieurs périodes, oui.
Voilà. Ce qui est important de noter dans cette Touchia de Grieb, et pourquoi est-ce qu'elle est intéressante, c'est parce que le rythme sur lequel elle se joue, il n'y a aucune autre Touchia qui est jouée sur ce rythme. Ce rythme, il s'appelle Inseraf, et il fait aussi partie d'une des sections de la Nouba. Donc, on a une grande partie de la Touchia qui se joue sur le Inseraf. Et ensuite, vers la fin de la Touchia, il y a un changement de rythme. On passe sur un rythme 6-8 qui s'appelle le Khlas. Et là, c'est la fin, c'est beaucoup plus joyeux. La musique se développe, le rythme augmente. Et donc, on arrive à la fin de la
donc,
fin de
en gros, on a un début assez improvisé qui ressemble un peu à un prélude. Les percussions entrent, on a après affaire à la majeure partie du morceau pratiquement est rythmée, et avec à l'intérieur de cette partie rythmée encore plusieurs périodes différentes. Alors nous écoutons la Touchia Grieb avec Nino au chant et au oud, Nino Bitton, Omri Mor au piano, Hagai Belitsky à la contrebasse et vous Ilalam Salem aux percussions. Écoutez un deuxième morceau tiré du même CD. Il s'agit de deux poèmes mis en musique. Que pourriez-vous nous apprendre sur cette pièce ?
Alors, concernant le premier morceau, il s'agit de ce qu'on appelle en musique algérienne un istirbar chanté par Nino. Maintenant, pour vous expliquer ce que c'est un istirbar, c'est un texte qui est chanté et qui n'est pas sans le rythme, sans la percussion.
De manière libre.
Voilà, de manière complètement libre. C'est une ouverture aussi, c'est une ouverture à la chanson qui va venir, qui est chantée, comme on l'a vu précédemment, sur le mode, sur le makam, qui définit la chanson qu'on va écouter. En l'occurrence, pour cette chanson, il s'agit d'une chanson qui est sur le mode Irak Maya. Et Voilà.
Et les paroles de ces deux morceaux sont tirées d'un recueil particulier ? En tout cas, ce sont des poèmes liturgiques. Pour ceux qui comprennent l'hébreu, on l'identifie tout de suite. Est-ce que vous connaissez la source de ces poèmes ?
Alors, les paroles de ces deux morceaux, en fait, sont tirées du recueil des poèmes liturgiques Yagel Yaakov, composé par les grands rabbins de la lignée Abicera. On peut dire que ces poèmes ont été écrits par Rabbi Israël Abicera, en l'honneur de son grand-père, Rabbi Yaakov Abicera.
Et vous dites que la musique Lirvod a été composée par Nino Biton lui-même.
Ouais. Cette musique-là, ce chant-là, a été composé par Nino. C'est un peu en style Haouzi.
Qu'est-ce que c'est qu'un style Haouzi ?
C'est une façon de chanter. C'est un petit peu, je ne vais pas dire du rap, mais c'est rythmé différemment que... C'est un peu classique, un peu plus moderne.
Alors donc la structure de tout ce que nous allons entendre, il y a d'abord un istikbar, une espèce d'ouverture. C'est donc un texte chanté de manière un peu improvisée, sans rythme vraiment identifiable. Et ensuite on va avoir un poème, Lirvod Ahuvi Benivi. Et donc ce poème qui est mis en musique sera interprété sur un rythme 8-8. Alors nous allons écouter... les deux parties de cette longue et belle pièce, donc l'istikbar Eroch Lifne El, ce qui veut dire je vais dresser devant mon Dieu, probablement une prière ou un chant, et l'Irvod Ahuvi Benivi, et en l'honneur de mon aimé, on parle de Dieu, avec Nino Biton au oud et au chant, Hillel Amsalem aux percussions et Ragai Belitsky à la contrebasse.
Thank you. לכבודהו ובניבי אשיר בזמרה גביר נעלה לתהילה לשם תפארה גדול באישים מעשיים לכבודהו ובניבי אשיר בזמרה גביר נעלה לתהילה לשם תפארה גדול באישים מעשיים יחזיק ידו, יגן בעדו, יגדל כבודו.
Nous écoutions Eroch Lifne El Nora, suivi de Lirvod Aouvi Benevi, avec Nino Biton au oud et au chant, Ilalam Salem aux percussions et Chagai Belitsky à la contrebasse. Alors, Ilalam Salem, en 2004, au cours de votre apprentissage musical, vous décidez de créer l'orchestre du Maghreb de Jérusalem avec le saxophoniste Eyal Talmoudi, le contrebassiste Chagai Belitsky, qui sont aussi des élèves de Nino Biton. Nous allons écouter un pot-pourri du répertoire que vous jouez avec cette formation. Nous allons donc entendre une certaine variété de morceaux enchaînés les uns aux autres et avec la plupart du temps des enregistrements en public. Nous écoutons.
نزرع بنكتور يا حد نعيش شعبين إسرائيل وفلسطين اليهود مسلمين كونوا فاهمين صار السلام في بلادنا نزرع بنكتور يا حد نعيش شعبين إسرائيل وفلسطين
تسيب يا حلالي غير نظره نظره فيا قاسمك غالي والناس ما تنبي واللي هيقول ديالي واللي يشرب يخلي قلبي مختار خايف של שמחה אהבה והבנה בינינו כולנו אחים בוקר של שמחה אהבה בינינו בוקר זה לזה בינינו דין
l'orchestre Nuba Greb de Jérusalem avec Nino Bitton au oud et au chant et Ilalam Salem assurait la partie de percussion. Alors Ilalam Salem, vous avez également fondé un ensemble de musique juive nord-africaine du nom de Dialna. Vous vous produisez avec cette formation dans le cadre du Festival d'Île-de-France, du Festival des Trois Andalousies à Essaouira au Maroc, ainsi que dans des festivals locaux ici en Israël. Comment avez-vous fondé ou confondé cet ensemble Dialna ?
En fait, Dialna, ça s'est créé à partir du moment où on s'est rencontrés entre musiciens qui jouent dans le même style de musique. Et ça s'est fait à Jérusalem. Et on a commencé à faire des petits concerts comme ça, sans beaucoup d'ambition, simplement à jouer le répertoire festif des communautés juives du Maghreb. On a organisé des petits concerts à Jérusalem. Et en fait, ça a pris, et ça a pris, et ça a pris. Et pendant ces concerts, le public comme ça criait « Dialna, Dialna ». Et c'est comme ça que le nom est né. Dialna, qui veut dire « de chez nous », en marocain.
Et comment avez-vous rencontré les musiciens qui constituent ce groupe ? Donc vous jouez les percussions. Alors, et de qui êtes-vous accompagné ?
Alors en fait, dans le groupe, il y a 5 musiciens. Il y a Elad Lévy, au violon, qui lui-même est l'élève du violoniste Yeshua Azoulay.
Un maître de violon oriental.
Un maître qui est plus parmi nous, malheureusement, mais qui est un vrai maître qui vivait en Israël. Et là, dès le premier violon de l'orchestre andalou d'Israël, il y a Hanan Kadosh au oud et au chant. Il y a également Chagai Bilitsky à la contrebasse, que lui j'ai rencontré avec Nino, et Nathanel Ben Chitrit aux percussions. En fait, pour mettre un peu les choses dans l'ordre, c'est Chagai qui m'a présenté ses musiciens.
Le contrebassiste, Chagai Bilitsky.
Chagai Bilitsky, le contrebassiste, m'a présenté ses musiciens. Et doucement, on a commencé à jouer ensemble d'abord à la maison. Et ensuite,
Et ça a pris forme.
Exactement.
Alors, je vous propose de vous écouter avec vos amis de l'ensemble Dialna dans un morceau intitulé Farouz Wassalam. Quelque chose à nous dire, Ilalam Salem, sur cette pièce ?
Ouais. Alors, c'est une œuvre composée par Sami El Maghrebi. il faut savoir que c'était un des grands artistes du Maghreb, de notre époque. Le morceau s'appelle, comme vous l'avez dit, Farouz Bouassalam. Il est composé d'un refrain et de trois couplets. Musicalement, le refrain se joue sur le mot Tree Jazz et les couplets se jouent sur des makams différents. Le premier, makam Nawand, le deuxième couplet en makam Razd et le troisième couplet, c'est le Khlas. C'est lui qui vient clore cet enchaînement de couplets et lui-même se joue sur le makam Tree Jazz.
Très bien. Alors, je vous propose d'écouter Dialna et évidemment Hilal Amsalem aux percussions, donc l'ensemble Dialna dont le titre Farouz Wassalam. Farouz Bouassalam par le groupe Dialna. Alors, il y a à Jérusalem une école des beaux-arts qui s'appelle l'école Betzalel. En 2010, Hilal, vous y avez joué lors des festivités de fin d'année avec l'ensemble Dialna. Vous souvenez-vous de ce que vous avez joué, de ce que vous aviez joué à l'époque?
Alors, si je me souviens bien, un des morceaux qu'on a joué, c'est un morceau qui s'appelle Atlas, qui fait partie du répertoire classique marocain. Et on a joué ça et avec
votre groupe. Alors, nous écoutons cette pièce de musique andalouse avec Hanan Kadosh au oud, Ella Levy au violon, Hagai Belitsky à la contrebasse et Hilal Amsalem aux percussions. Atlas par le groupe Dialna. Il y a un autre grand musicien avec lequel vous collaborez ces dernières années. Un musicien âgé maintenant, qui a derrière lui une très belle carrière de pianiste de musique arabo-andalouse populaire, qu'on appelle le Shaabi. Il s'agit du pianiste Maurice El Medioni. Que pourriez-vous dire de votre collaboration avec ce musicien bien connu, aussi bien des communautés juives que musulmanes d'Afrique du Nord ?
Alors, déjà, je peux dire que j'ai énormément de chance de pouvoir partager de pouvoir jouer avec Maurice El Medioni. Pour moi, c'est comme jouer avec le dernier des Mohicans. Je peux dire qu'il porte en lui la mémoire de la musique populaire algérienne, le Shaabi, comme vous l'avez dit. Et Maurice, il est spécial parce qu'il a toujours été innovateur dans son style. Il a des phrasés de piano qui sont bien à lui. Il a un style, il a créé son style à lui, qui est un mélange de musique algérienne et de musique américaine.
Et de raï aussi, non ?
De raï, de boogie-woogie. Il appelle ça le boogie-woogie.
Ah, d'accord.
Et c'est quand même lui qui a écrit le tube « Ahlan wa sahlan ». Il ne faut pas l'oublier.
Et on a l'impression, quand il joue du piano, que c'est un peu un homme orchestre. On a l'impression qu'il y a des basses qui ronflent comme ça dans le registre grave, et puis qu'il y a des mélodies à la main droite. À lui tout seul, il peut donner l'impression d'un orchestre, d'un groupe.
Exactement. En général, la musique algérienne, elle se joue à l'unisson au piano. C'est-à-dire que les deux mains jouent la même chose, dans les basses et dans les aigus. Alors que Maurice, lui, s'accompagne, il donne une rythmique qui facilite en même temps mon travail. Mais il sait exactement de quelle façon il veut entendre sa musique et comment est-ce qu'elle doit être rythmée. Et il peut le faire, il le fait très bien, même tout seul, des fois.
Alors je vous propose d'écouter à présent une chanson nostalgique intitulée « Oran, Oran », dans laquelle Maurice El Medioni n'a pas seulement la nostalgie de Oran, mais aussi celle de Lila Bassi, Lili Boniche, Renette Loranez, autant de musiciens qui ont fait la musique des années 40-50 en Algérie. Cette Algérie où la communauté juive a modernisé l'héritage arabo-andalou, partagé depuis des siècles avec leurs compatriotes musulmans. Dans cette chanson, El Medioni chante en sabir, c'est-à-dire dans un mélange d'arabe et de français. Nous écoutons Oran Oran par l'ensemble Dialna et Maurice El Medioni au piano.
La rue de Wagram et la place d'Armand. Je ne prenais jamais de vacances. Je ne connaissais même pas la France. Sauf sur une carte, c'était pas dans la tarte. Il fallait des flous, pas des cormos. Et la sang sur toutes les pelouses. Des planteurs jusqu'au fort Santa Cruz qui ne campaient pas le jour de la Mona. Salsa et rumba comme à Cuba. De la baissée et de sa clientèle. Blond, blond et boniche, l'île Montier à l'affiche. Elle m'arrive, Renette, Yahbabi.
Entendre Oran Oran par l'ensemble Dialna et Maurice Elmedioni au piano. Ilham Salem, vous avez également séjourné à Cuba pendant plusieurs mois et vous vous êtes spécialisé dans la percussion cubaine auprès de musiciens locaux et en particulier auprès de Donietsky Barreto. À partir de cette époque, vous multipliez les collaborations avec des chanteurs aux styles musicaux variés. La musique pour percussion à Cuba a-t-elle quelque chose à voir avec la musique arabo-andalouse ?
Je pense que oui, je pense qu'effectivement il y a une relation entre les deux. À partir du moment où on comprend qu'il y a eu de grands flux migratoires qui partent de l'Espagne vers le Maghreb et de l'Espagne vers les Amériques. Donc toutes ces personnes arrivent à destination ou en Amérique ou au Maghreb avec un patrimoine qui vient d'Espagne.
Un patrimoine ensuite, commun.
Un patrimoine commun musical qui vient d'Espagne et patrimoine rythmique. Et ensuite, ils développeront chacun de leur côté ce qui va devenir la salsa ou ce qui va devenir le shabi. Mais effectivement, on retrouve dans la musique populaire des rythmes qui sont identiques pratiquement.
Alors, est-ce qu'on pourrait vous demander une petite faveur et de nous faire une démonstration en studio ?
Oui, bien sûr.
Alors, vous allez prendre quel instrument maintenant, Hillel ?
Là, je vais prendre la darbuka.
D'accord. Alors, on est en direct, donc vous prenez votre instrument. Et qu'est-ce que vous allez... nous jouer à la darbouka.
En fait, je vais vous jouer un rythme qui s'appelle, en musique algérienne, qui s'appelle gbahi. C'est le rythme le plus populaire en shabi algérien.
En shabi, c'est-à-dire en musique populaire.
En musique populaire.
D'accord. On vous écoute. Ok, très bien.
Maintenant... au bongos et dans la musique cubaine, il y a un rythme qui s'appelle le martillo, qui se joue avec des bongos.
Et qui est ressemblant ?
Ben vous allez me le dire.
D'accord, très bien. D'accord, effectivement, il y a des ressemblances. Et donc, vous dites que le fait qu'il y ait ces flux migratoires, ce flux migratoire a forcément créé des ressemblances entre des musiques de régions très éloignées.
Disons que les rythmes sont les mêmes pratiquement. À part l'enjolivement qu'il y a au milieu de chacun. À la darbouka, il y a un enjolivement qui est un enjolivement de musique arabe. Et la façon de jouer des bongos, c'est comme ça qu'on se joue à Cuba. Mais le rythme, c'est le même.
D'accord. Donc, alors j'ai eu envie de faire écouter à nos auditeurs un enregistrement réalisé au marché de Jérusalem, un marché qui s'appelle Machane Yehuda, où s'est tenu pendant quelques années en été le festival Balabasta. C'est une sorte de festival de rue très convivial, joyeux et populaire. Vous y avez joué, Ilham Salem, avec l'ensemble Dialna, mais également avec une autre formation que vous avez créée en 2004, le Mizrahi Salsa Band. Que veut dire Mizrahi Salsa Band ?
En fait, c'est composé de plusieurs mots. Mizrahi, c'est la musique populaire et méditerranéenne qu'il y a en Israël, qu'on écoute en Israël. Salsa, c'est la salsa. Band, c'est un orchestre. En fait, on a décidé, avec des musiciens qui savaient bien jouer le répertoire salsa et le répertoire arabo-andalouse et arabe, décidé de jouer les musiques les plus dansantes.
Alors, nous allons immédiatement écouter un extrait.
canto cedro voy para Miami, viendo el vuelo voy para Miami. Canto cedro voy para Miami, canto cedro voy para Miami. Canto cedro voy para Miami, viendo el vuelo voy para Miami.
Nos auditeurs auront reconnu le titre interprété, Hillel ?
Bien sûr. En fait, ce qu'on écoute là, c'est une reprise du tube du pianiste Compay Segundo, qui est devenu célèbre avec le film du Buenavista Social Club. Le tube s'appelle Chan Chan.
Alors, Hillel, qui joue avec vous dans cet extrait ?
Alors, il y a Hagai Bilitsky à la contrebasse, Omri Mor au piano, Guy Shoshani au chant et aux percussions. Et voilà, je crois que
c'est tout. Ouais. Quel est le style de musique que joue cet ensemble ? Comment vous le définiriez ? Il y a une fusion dedans, entre plusieurs styles ?
Il y a bien sûr, il y a une fusion entre la musique arabe, la musique cubaine et la musique noire américaine, ce qu'on appelle la soul. En fait, on a essayé de choisir des musiques qui sont dansantes dans tous ces répertoires, et qu'on ait pu arranger à notre sauce, quoi.
En tout cas, cette fusion est très réussie. Elle sonne de manière extrêmement harmonieuse. Merci. Qui est ce chanteur qui a une voix d'un volume extraordinaire qui s'appelle Guy Shoshani ?
Alors, Guy Shoshani, c'est un artiste de Jérusalem que j'ai rencontré au cours de divers concerts que je faisais, plus dans le jazz. Voilà, lui, il chantait, il jouait des percussions, il était comme ça, c'est un grand, grand monsieur. Il était impressionnant, avec une présence sur scène et une façon de jouer. Il est autodidacte complètement musicalement. Et donc voilà, dès que l'occasion s'est présentée, on a fait un premier concert comme ça pour le plaisir. Et à partir de ce concert, on s'est dit qu'on allait continuer.
Alors, on va pas se priver du plaisir de l'écouter encore un peu.
By sympathy, canto cedro voy para Miami, lindo viento voy para Miami, in the left hand of the Thank you.
Nous écoutions le Mizrahi Salsa Band et Guy Shosheni au chant. Depuis 2012, vous collaborez également avec le chanteur israélien Amir Benayoun. Comment définiriez-vous le style de ce chanteur ?
Alors en fait, c'est un chanteur populaire israélien. Il chante des ballades, du rock, mais lui-même vient de la musique andalouse. Son père était effectivement un musicien de musique andalouse et il a été bercé dans la musique arabo-andalouse et la musique égyptienne.
Alors nous allons écouter un titre qui s'appelle Yosef. De quel album ce titre est-il tiré ?
Cette chanson est tirée du dernier album d'Amir Benayoun qui s'appelle Soufa.
Alors Soufa, en hébreu, c'est un vent fort ?
Une tempête.
Une tempête. Une tempête. Et donc, qu'est-ce que les paroles racontent pour les auditeurs qui ne connaissent pas l'hébreu ?
Alors l'histoire de Yosef, c'est Joseph, et ça raconte l'histoire biblique, l'histoire entre lui et ses frères, la complexité des relations qui existent entre lui et ses frères.
Donc ça, c'est vraiment issu, l'histoire, enfin les paroles nous relatent vraiment le passage biblique de Joseph et de ses frères.
Tout à fait.
Et de la vente de Joseph.
Tout à fait, c'est tiré des commentaires de la Bible.
Donc c'est l'histoire de la difficile recherche de la fraternité entre Joseph et ses frères. Nous écoutons la chanson Yosef avec Hillel Amsalem aux percussions et Amir Benayoun au chant.
يوسف حلم مسكين وبو يحب ويمر عليهم شمعونا حلم شمعونا حلم لكن نحن مألمين ألومين بسد ونزكفة ألومتي وقم نتابة وهنا Nitzava veine Alumot elchem Az tishtahavena La alumati Ki en zkufa mimena Vayomru echam Hanimloch tirtena Vayosifu otznoto שמש ירח כוכבים כולם אליו משתחווים מלך העולם אבל סנו על אחיו כולם ויראו אותו אחיו עוד תרם שיקרם ויתנקלו להמיתו בואו נמית אותו נקבור את חלומו איתו ויאמר ראובן לא נקנו נפש זרקו אותו לבור עם עקרבים ורפש דם אל תשפחו ויד אל תשלחו בו מצערו של הבן נעברח ויאמר ראובן לא נקנו נפש זרקו אותו לבור עם עקרבים ורפש רק דם אל תשפחו ויד אל תסלחו בו מצערו של אבא אנא אברח אז למכור אותו
venons d'entendre Youssef de Amir Benayoun et la partie de percussion était assurée par Hillel Amsalem. Après 15 ans de carrière musicale, Hillel, quel est le projet qui vous tiendrait le plus à cœur de réaliser ?
Des concerts acoustiques. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, de faire des concerts de musique andalouse comme on les faisait il y a encore 70 ans.
Qu'est-ce qui vous dérange dans la sonorisation des concerts actuels ?
Ben, je crois qu'on sait que notre oreille s'est habituée à avoir une certaine dose de...
De décibels. Je dirais même une overdose.
Une overdose, d'avoir une sorte de saturation au niveau des basses, des aigus. Et au bout du compte, on ne peut plus entendre de musique, on ne peut même plus faire un concert sans avoir même un minimum de volume, mais avoir une sonorisation, quoi.
D'accord. Bah, nous vous souhaitons de pouvoir réaliser des concerts acoustiques le plus tôt possible. Vous jouez ce soir même à Tel Aviv avec Amir Benayoun, où j'imagine qu'un public très nombreux va venir. Vous arrive-t-il également de jouer pour des soirées privées ?
Oui, bien sûr. En fait, l'orchestre d'Yalna s'oriente depuis quelques années déjà dans les aînés, les choupotes.
Donc des soirées privées, les choupotes sont donc des mariages, des soirées privées, familiales.
Exactement.
Alors si l'un de nos auditeurs désirait vous contacter, comment devrait-il s'y prendre ?
Alors je crois qu'il y a les deux moyens les plus simples, c'est par mail. Mon mail c'est hillelamsalem, hillelamsalem.
Je vais le redire, hillelamsalem. @gmail.com.
Parfait.
Et sur Facebook, vous auriez un moyen de...
Et sur Facebook, c'est Hillel Amsalem.
D'accord, très bien. Eh bien, Hillel Amsalem, je vous remercie d'avoir été notre invité pour cette émission spéciale qui vous était consacrée. J'espère que nos auditeurs auront eu autant de plaisir que moi à découvrir les nombreuses facettes de votre grand talent. Au revoir à tous et à très bientôt.
Au revoir Sabine, c'était un plaisir.